cette dernière conférence de la journée. Je ne sais pas si vous en avez fait beaucoup d'autres avant, mais en tout cas, je vous rassure, ça sera la dernière, hein, parce qu'après, on ferme. Alors, je me présente rapidement avant de démarrer. Je m'appelle Marc Tantillier, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis thérapeute à Paris. Et je vais vous parler des épreuves de la vie et de ce que ces épreuves peuvent nous apporter, en particulier pour faire évoluer notre âme. Alors, bon, vous aurez compris qu'on va parler un peu de spiritualité, hein, à partir du moment où il y a le mot « âme » dans le titre. En plus, si vous arrivez à lire le petit logo en bas, « Les chemins de l'âme », c'est le centre dans lequel j'exerce mon activité, c'est un centre que j'ai créé. Donc deux fois le mot âme, clairement on va parler de spiritualité. Alors déjà pour commencer, les épreuves de la vie, vous pourriez me dire mais pourquoi est-ce qu'on parle d'épreuves de la vie, parce que la vie normalement c'est constitué d'amour, de joie, de bien-être, de bonne santé, de légèreté, de rigolade et de tout un tas d'autres bonnes choses. Donc la vie, normalement, c'est ça. C'est de la paix, c'est de l'harmonie, c'est du bien-être. Sauf que, concrètement, ça se passe pas toujours comme ça. En pratique, on expérimente un certain nombre de choses qui peuvent être un petit peu douloureuses. Donc ça peut être des séparations, ça peut être de la maladie, des accidents, perte d'emploi, dépression, des émotions envahissantes, de la peur, de la colère, et blablabla, j'en passe et des meilleurs, vous en avez certainement plein en tête, parce que a priori, si vous êtes là, c'est que vous êtes plutôt dans cette case-là que dans la case précédente. Je vous rassure, c'est normal, on y est tous. Hein. Des gens qui sont que dans l'amour, la paix et l'harmonie, j'en connais pas beaucoup. Alors, donc tout ça, ce sont des épreuves qu'on traverse. Et on va voir un petit peu pourquoi il y a ces épreuves qui se manifestent et puis surtout ce qu'on peut en faire. Avant de voir ça, je voudrais déjà qu'on précise un petit peu notre point de vue sur ces épreuves, sur d'où est-ce que ça vient. Parce qu'on peut avoir tendance, on pourrait être enclin à penser que tout ça, ce sont des choses qui nous arrivent. On dit souvent, tu sais pas la dernière qui m'est arrivée, tu sais pas ce qui m'arrive. Comme si j'avais perdu mon boulot parce que c'est la faute de mon patron. Je suis malade parce que c'est la faute du virus. Il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans en voiture parce que c'est la faute de cet abruti qui ne sait pas conduire. Etc, etc. Quand on est dans ce point de vue, dans cette posture, on est un petit peu comme le monsieur qui est là. Je ne sais pas si vous voyez parce que la salle est grande. On est un petit peu comme le monsieur qui est là dans son canoë entouré de requins. Donc on est dans notre vie et puis tout autour de nous, il y a un certain nombre de dangers qui gravitent, qui menacent. Et c'est très inconfortable parce que moi, j'aimerais pas être à la place du monsieur. Et puis surtout, c'est faux. C'est faux parce que ce qui arrive, en fait, c'est ce que je me fais arriver. Tout ce que je peux traverser, les épreuves, les maladies, les accidents, etc., etc., c'est quelque chose que je me fais arriver. Je tombe malade, c'est mon corps qui a décidé d'attraper le virus. Et peut-être que la personne à côté de moi, elle n'a pas attrapé le même virus. Or, on était dans la même pièce avec le même virus. Hein. Je perds mon emploi, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui a appelé, qui a amené cette perte d'emploi. Le type qui ne sait pas conduire me rentre dedans avec sa voiture, c'est parce que j'ai attiré ce type qui ne savait pas conduire pour qu'il me rentre dedans. Donc, il y a une partie de moi qui décide que je vais vivre cette expérience, aussi douloureuse et aussi pénible soit-elle. Parce que cette expérience est un message, et c'est un message que je m'envoie. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le monde extérieur, c'est pas la faute à pas de chance, c'est pas le gouvernement ou je sais pas qui, c'est moi. C'est moi qui m'envoie tout ce que je vis. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut parler un petit peu de ce que c'est que l'âme. Parce que ce jeu qui m'envoie les épreuves, en fait, c'est mon âme. Cette partie de moi qui décide que je vais traverser ces moments douloureux, c'est mon âme. Alors, l'âme, qu'est-ce que c'est ? Déjà, je précise que ce que je vous dis là, ça n'est pas... Tout ce que je vous dis au cours de cette conférence, ça n'est pas un point de vue, c'est pas une opinion, c'est pas des croyances que je porte. Tout est issu de sagesse qui ont été reçues pendant des soins, pendant des canalisations, en se connectant à une dimension supérieure. Donc ça vient pas de moi, c'est des infos que j'ai reçues et que je vous partage. C'est pour ça que je me permets de parler à l'indicatif et pas au conditionnel. Parce qu'on est quand même dans un domaine où en général le conditionnel est de rigueur. Mais moi je ne l'utilise pas parce que je sais d'où ça vient. Alors, l'âme, eh bien, c'est une partie de nous qui est issue de, on va dire, la source universelle. Alors, si vous avez d'autres vocabulaires pour appeler ça autrement, faites-le, il n'y a pas de souci. Vous pouvez appeler ça Dieu, vous pouvez appeler ça l'univers, vous pouvez appeler ça l'énergie, vous pouvez appeler ça mousse au chocolat, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, il existe quelque chose que moi j'appelle ici la source, qui est à l'origine de l'univers et qui est créateur d'énergie. C'est cette source qui crée des âmes. Nos âmes, elles sont issues de cette source et en... ça leur donne leur nature éternelle et leur capacité à accéder à toutes les sagesses, à toutes les connaissances, parce qu'en fait elles sont reliées à cette source dont elles sont issues en permanence. Notre âme, mon âme, votre âme, elle est reliée à cette source, et par l'intermédiaire de cette source, elles sont reliées aussi à toutes les autres âmes qui existent. Ce qui veut dire que cette âme, elle a accès à tout. Elle peut, elle sait tout, et notamment, elle sait ce dont on a besoin. C'est pour ça qu'elle nous fait arriver ces épreuves, pour qu'on reçoive les messages. Je vais y venir. Alors, sauf que cette âme, vous pourriez me dire, comme elle est omnisciente, omnipotente, donc elle sait tout et elle peut tout. Ça veut dire qu'elle peut guérir tout ce qui a besoin d'être guéri. Elle peut nous faire arriver tout ce qu'on a besoin de recevoir, etc. Alors, avec un tel pouvoir, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de nous faire arriver des épreuves ? On pourrait se poser la question. Eh bien, parce qu'elle est en évolution, notre âme. C'est un petit peu comme nous, êtres humains. C'est-à-dire que les âmes, elles ont une enfance, une adolescence, un âge adulte, un âge mûr. Elles grandissent et elles acquièrent de la sagesse au fur et à mesure qu'elles grandissent. Leur but, en allant chercher cette sagesse et ces enseignements, eh bien, c'est d'atteindre un niveau de sagesse, de maturité, un niveau d'amour inconditionnel, qui va leur permettre de retourner à la source dont elles sont issues pour venir enrichir encore plus cette source en lumière, en sagesse, en amour. Ça, c'est ce que je suis en train de vous raconter là, c'est le cycle de l'âme. En fait, l'âme, elle naît, elle grandit, elle évolue, et puis, un beau jour, elle retourne à la source. Sauf qu'entre les deux, il faut qu'elle grandisse. Et pour grandir, eh ben, ça ne se fait pas tout seul. Elle a besoin de nous, elle a besoin de nos corps, elle a besoin de s'incarner, l'âme. Parce que si elle reste toute seule dans les vapeurs, là, on ne sait pas trop où, eh ben, il ne va pas se passer grand-chose. Elle va rester telle qu'elle est, et puis elle ne va pas beaucoup grandir, elle ne va pas évoluer. Donc en fait, ce cycle de l'âme. C'est ce que j'ai représenté ici par cette spirale. Dans la spirale, il y a deux types de mouvements. Il y a un mouvement vers le haut, qui est l'évolution de l'âme. Et puis, il y a ce mouvement circulaire. Et en fait, à chaque boucle, c'est une incarnation. C'est une nouvelle vie. Chaque boucle permet à l'âme de faire des expériences qui lui permettent de grandir. Et lorsque elle a terminé sa vie, que l'incarnation meurt, l'âme, elle, ne meurt pas, et ben elle va continuer, elle va faire un petit tour là-haut et puis elle redescend après quand elle est prête. Elle va se réincarner et elle recommence le même cycle. Mais à un stade un petit peu plus élevé au niveau de son évolution, parce qu'elle a appris des expériences de la vie précédente. Alors, parfois, il peut y avoir, ça peut être un petit peu chaotique, hein. Là, la spirale, elle est assez régulière. Il peut arriver que pendant 1, 2, 3, 10, 30, pendant pas mal d'incarnations successives, l'âme, elle évolue pas beaucoup, voire très peu, voire pas du tout. Parce que ce sont des incarnations où on n'est pas conscient de sa présence, on n'est pas conscient de son besoin d'évoluer et on ne fait pas le travail pour l'aider. Ça ne se fait pas tout seul, il faut bosser pour ça. Donc, parfois, il y a des périodes pendant lesquelles on n'avance pas, puis parfois, il y a des périodes dans lesquelles on avance très vite. Alors, l'avantage, si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous êtes plutôt dans une vie où vous êtes en train d'avancer. Donc déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut avancer et qu'on peut avancer vite. Alors, donc je me dis, l'âme cherche à se faire entendre. Donc tout ça, c'est au travers de ce que je me fais arriver, de ce que mon âme me fait arriver. Donc au travers des accidents, des maladies, des épreuves, etc., c'est un moyen pour l'âme de se faire entendre. Alors c'est important de l'entendre, hein, donc c'est important de pouvoir décrypter les messages pour deux raisons. La première raison, c'est que, comme je l'ai dit, ça permet de faire évoluer l'âme, donc c'est quand même notre boulot d'être incarné, d'aider notre âme à évoluer. Et la deuxième raison, c'est que si on décrypte pas les messages, eh ben l'âme, elle va continuer à nous les envoyer jusqu'à ce qu'on les entende. Et si on n'entend pas ce qu'elle nous dit, eh ben elle va crier un peu plus fort et encore plus fort et encore plus fort. Donc, en termes d'impact sur notre personne, sur notre personnalité, ça peut commencer à devenir un petit peu compliqué. Si on peut commencer avec un rhume et puis après passer à des maladies plus embêtantes jusqu'à des maladies graves. Donc si on peut l'éviter, tant qu'à faire, autant ne pas s'en priver. Et tout ça, ce sont des opportunités de grandir. Donc les épreuves que l'on traverse, ce sont des opportunités. Et à ce titre, nous pouvons les accueillir avec gratitude. Alors, je sais que ça peut être un petit peu compliqué quand je dis ça, parce que remercier une maladie grave, remercier la perte d'un proche, remercier le chômage, c'est pas toujours facile. Mais n'empêche que ce sont quand même des cadeaux que notre âme nous envoie pour nous permettre d'avancer. Et donc, ça justifie des remerciements. Je vais vous raconter une petite partie de mon parcours pour illustrer ça. Moi, j'ai eu une première partie de vie relativement tranquille. Quand je dis une première partie, c'est jusqu'à 35 ans à peu près. J'ai fait des études correctes, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, j'ai eu un bon boulot, j'ai commencé à travailler dans la finance avec un bon salaire. Je me suis marié avec une femme formidable, on a eu deux beaux enfants, des conditions de vie plutôt agréables. Tout allait bien, aucune spiritualité pour m'empoisonner la vie. J'étais sur mes rails et tout se passait bien. Jusqu'au jour d'avril 2003 où tout s'est écroulé en l'espace de quelques heures. Un espèce de tsunami émotionnel, on va dire, dans laquelle j'ai cru tout perdre. Je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais, je savais plus où allait ma vie, ça a failli détruire ma famille, je savais plus où j'étais. J'avais plus aucun repère, aucune certitude, toutes mes certitudes avaient été balayées. Il n'y avait plus rien. Après le choc est venue la dépression. Et après la dépression, la reconstruction, qui a commencé au début lentement, puis après ça s'est un petit peu accéléré. Bon, il y a eu différentes phases, peu importe. C'est pas trop le sujet là aujourd'hui. Mais cette reconstruction, ce mouvement, ça m'a amené à découvrir des vérités que jusque-là je ne soupçonnais pas, par exemple ce dont je vous parle aujourd'hui. Ça m'a amené à découvrir une spiritualité qui va grandissant, ça m'a amené à avancer sur un chemin qui se poursuit et qui, à mon avis, va se poursuivre toute ma vie, qui, entre autres, m'a conduit à changer de vie, à changer de métier, à m'orienter vers la thérapie. Ce que j'ai fait concrètement 10 ans plus tard. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh ben parce que cette épreuve, et elle n'a pas été super drôle à vivre, hein, je peux vous le dire, eh ben cette épreuve, ça a été une opportunité incroyable qui m'a permis de découvrir plein de choses. Et aujourd'hui, je remercie cette épreuve très sincèrement du fond de mon cœur. Même si sur le coup, c'était pas drôle, quoi. Voilà. Donc, c'est important de recevoir, d'accueillir et de remercier toutes ces épreuves, tous ces moments difficiles. Quelques exemples, quelques types de messages qui peuvent être contenus dans ces épreuves. Alors le premier, c'est pas un hasard si je l'ai mis tout en haut de la liste, aime-toi. Si vous ne deviez retenir que 2 mots de ma conférence, ce sont ceux-là. C'est essentiel, c'est la base de tout développement personnel, de tout développement spirituel, de tout bien-être, de tout ce que vous voulez, être dans l'amour de soi. Ça, ce sont des messages qui sont reçus typiquement par des personnes qui souffrent ou qui ont souffert de maltraitance. Les cas de maltraitance, quelle que soit la forme que ça prend, les cas de maltraitance, c'est très très souvent pour faire passer le message, pour faire prendre conscience que la personne a besoin de s'aimer elle-même, d'abord. Parce que si on veut pouvoir être aimé des autres, il faut s'aimer. Si on veut pouvoir aimer les autres, aimer vraiment les autres, il faut d'abord s'aimer soi. On ne peut à peu près rien faire si on ne s'aime pas. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste, parce que c'est vraiment un point capital pour avancer, pour évoluer, l'amour de soi. Autre message, autorise-toi à montrer tes émotions. Je pense à un monsieur qui était venu me voir, enfin qui vient toujours d'ailleurs, mais pour autre chose, qui a eu une tumeur. Et lorsqu'on a interrogé en consultation cette tumeur, eh ben le message qui est venu, c'est celui-là. Parce que il avait en lui, il portait une croyance qui était issue de sa famille. Il avait hérité, c'était un héritage transgénérationnel. Il avait hérité de la croyance qu'il ne fallait pas, qu'il était interdit de montrer ses émotions. C'était mal de montrer ses émotions. Résultat, tumeur. Bon, Donc heureusement, chez lui, ça s'est bien terminé. Mais c'était important de le recevoir, ce message. Et puis bien sûr, derrière, de changer, d'évoluer pour le mettre en œuvre, pour vraiment se permettre de montrer ses émotions. Reconnais la valeur de ton être. Ça, c'était une autre personne que j'avais eue en consultation. C'était une jeune femme qui avait changé de métier, qui faisait un métier qu'elle aimait, après en avoir fait un qu'elle n'aimait pas, mais ça, c'était réglé. Elle avait trouvé sa voie, sauf qu'elle avait un gros problème financier. Elle n'arrivait pas à vendre ses prestations, à valoriser ses prestations. En fait, elle ne croyait pas en la valeur de ses prestations. Et donc en fait, ça ne marchait pas, hein, parce que quand on n'y croit pas soi-même, c'est difficile de faire croire aux autres. Et ce qui est ressorti, lorsqu'on a contacté cette difficulté, c'était une souffrance qui venait de l'inconscient collectif, de toutes les personnes qui avaient souffert de la pratique de l'évaluation, donc qui avaient été évaluées d'une manière ou d'une autre, notamment évaluation par rapport à leur capacité physique, et qui en avaient souffert. Dedans, il y avait en vrac des mémoires d'esclavage. On comprend bien, hein, parce que les esclaves étaient clairement évalués selon leur capacité physique, c'était même le seul critère. Il y avait des mémoires d'esclavage, il y avait des mémoires de servitude au Moyen Âge, donc des serfs qui étaient évalués en fonction de leur capacité à exploiter les terres pour le seigneur. Il y avait des mémoires de différentes personnes faibles physiquement et qui du coup, entre guillemets, ne valaient rien. En tout cas, c'était ce qu'on leur renvoyait dans la société dans laquelle elles vivaient. Il y avait également des mémoires d'enfants à l'école qui souffraient de la pratique de l'évaluation. Donc, vous voyez, ça peut remonter à très très loin. Ça peut aussi être dans notre quotidien, dans notre présent, hein, parce que l'évaluation à l'école, elle existe toujours. Et en fait, chez cette personne qui portait cette mémoire, il y avait eu une espèce de confusion, d'assimilation entre la valeur des actions et la valeur de l'être. Et donc, comme elle portait cette mémoire de souffrance de l'évaluation, eh bien, elle s'auto-dévalorisait. Elle ne se reconnaissait pas la valeur de son être, qui était indépendante de la valeur de ce qu'elle faisait, de la valeur de ses prestations. Donc il a fallu faire un travail justement pour dissocier les deux, pour intégrer, pour accepter la valeur de l'être, c'est-à-dire que l'être, chaque être a une valeur, et toutes les valeurs sont identiques, quelles que soient les actions de l'incarnation de cet être, et puis après, d'accepter qu'il peut y avoir des valeurs différentes au niveau des prestations, c'est-à-dire des actions dans la matière de l'incarnation de l'être. Retrouve ton pouvoir. C'est un message qui est venu notamment lors d'une consultation avec un jeune homme qui souffrait d'addiction, drogue dure et de dépression. Et ce qui est sorti avec lui, c'était des mémoires de vie antérieure dans lesquelles il avait pris l'habitude de confier son pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il y avait des mémoires de militaires. Ça tournait beaucoup autour de l'uniforme, donc différentes fonctions ou congrégations qui portaient des uniformes et qui, au final, remettaient leur pouvoir à l'organisme dans lequel ils évoluaient. Et il y avait aussi des mémoires, ça nous disait qu'on retrouvait ça dans nos sociétés modernes avec le diktat de la mode, de l'apparence physique, etc. Au final, quand on est là-dedans, on remet son pouvoir à l'autre. Et ce jeune homme, lui, il avait aussi remis son pouvoir, en l'occurrence, à la drogue. Lorsque ça peut concerner aussi beaucoup dans toutes les personnes qui sont victimes d'addiction, quelles que soient les formes d'addiction. Une addiction à une substance ou une pratique ou à une personne, à une relation, eh bien, on remet son pouvoir à la substance ou à la personne ou à la relation quand on fait ça. Accueille ton talent avec joie. J'ai mis ça parce que ça revient régulièrement quand je reçois des gens qui viennent me voir pour contacter leur mission de vie, contacter leur talent. Des personnes qui souhaitent, notamment dans le domaine professionnel, mais ça peut aussi être dans le domaine perso, qui viennent me voir pour avoir des indications sur ce pourquoi elles sont faites dans cette incarnation. Et là, en général, on contacte un talent ou un type de talent, et puis c'est important de pouvoir l'accueillir. Autorise-toi à être toi-même. Bon, je vais pas tout vous détailler parce que ça serait un petit peu long, mais juste je les lis parce que je suis pas sûr que dans le fond de la salle on arrive à les lire. Autorise-toi à être toi-même. Ça, c'est super important aussi. Exprime-toi. J'ai vu quelqu'un qui portait la croyance que ce qu'elle avait à dire n'était pas intéressant, du coup elle n'arrivait pas à s'exprimer. Et confiance. Oui, on peut avoir confiance puisque quand on sait que il y a notre âme derrière et que l'âme vient de la source et qu'elle a accès à toutes les connaissances et toutes les compétences, oui, on peut avoir confiance. Et oui, tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable des autres. Alors ça, les mémoires de culpabilité, on en trouve à l'appel. Les croyances qu'on est responsable de l'autre. Alors ça peut être « je suis responsable du bonheur de l'autre » ou alors « je suis responsable de son malheur ». Je suis responsable de tous les malheurs de la Terre. Ça peut vous sembler un peu ridicule, mais on la trouve souvent, celle-là. Je suis responsable de tous les malheurs de la Terre. Hein. On oublie tout raisonnement quand on dit ça, mais on y croit dur comme fer. Alors, le corollaire, le pendant de « tu n'es pas responsable des autres », c'est « tu es responsable de toi ». Ça aussi, il faut l'accepter et il faut l'intégrer. On n'est pas responsable de grand-chose, on est responsable de personne, sauf de soi. Sauf que, soit il faut s'en occuper, parce que ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Et quand on n'en a pas conscience et quand on demande aux autres de s'occuper de soi, on tombe dans l'égoïsme et là, c'est pas terrible, on pourrait faire une conférence rien que sur les messages. Mais déjà, comme ça vous donne une petite idée de ce qui peut venir lorsqu'on va au-delà des épreuves qui nous arrivent. Alors, le mécanisme de libération, dont je disais la bonne nouvelle tout à l'heure, c'est qu'on peut en faire quelque chose et on peut se libérer. Comment ça fonctionne ? Eh bien, quelle que soit la technique thérapeutique que l'on utilise, je vous en parlerai juste après, des techniques thérapeutiques, le mécanisme est le même. C'est un cycle qui part des symptômes. Alors ici, on se place au niveau de l'incarnation. Donc là, c'est ma maladie, c'est mon accident de voiture, c'est ma perte d'emploi. Et on va remonter au niveau de l'âme pour aller identifier ce qui est à l'origine de ce symptôme. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai attiré la perte de mon job ? Ça peut être un des messages qu'on a vu précédemment. Par exemple, je ne reconnais pas la valeur de mon être. Ça pourrait être ça. Ça peut être autre chose. Ça peut être un événement qui s'est passé dans une vie antérieure. Ça peut être un héritage transgénérationnel. Ça peut être de l'inconscient collectif. Ça peut être tout un tas de choses. Et après, on va activer un processus d'auto-guérison. Comme on est au niveau de l'âme, elle a toutes les facultés, elle a toutes les compétences pour pouvoir guérir ce qui est là, pour pouvoir guérir cette cause, pour pouvoir transformer la croyance, le blocage, l'héritage, etc. Donc ça, on va demander à l'âme de travailler pour activer ce mécanisme d'auto-guérison. J'insiste sur le auto, c'est bien de l'auto-guérison, auto-guérison, pardon. Ce qui... La seule personne qui peut guérir les croyances, les héritages ou les blocages que je porte en moi, bah c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas l'extérieur. Je peux pas attendre de quelqu'un qui me guérisse par un coup de baguette magique. Non, le pouvoir, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'applique, c'est moi qui me guéris. Une fois que ce mécanisme d'auto-guérison est déroulé, on arrive dans l'apaisement, il y a une phase d'apaisement qui répond à la cause qui est là. Donc en fait, l'événement ou le blocage ou la mémoire qui est là est transformé par l'auto-guérison pour être apaisé et se transforme en quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus confortable. Par exemple, je vais passer là, dans j'accueille la valeur de mon être et je l'intègre complètement. Et ça, ça a des conséquences sur la partie incarnée, donc qui peuvent être le fait de guérir une maladie, qui peuvent être le fait de retrouver un emploi plus facilement, qui peuvent être le fait de se libérer d'une addiction, etc., etc. Donc ça, c'est le mécanisme général. J'arrive maintenant à comment on fait concrètement. On va utiliser un truc que j'appelle les états d'expansion de conscience. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Alors, la conscience, qu'est-ce que c'est ? Je sens que j'aurais pas dû poser cette question parce que là, il me faudrait 3 heures pour répondre. La conscience, c'est un moyen de communication, je dirais même le seul moyen de communication avec notre âme. C'est ce qui fait le lien entre l'incarnation et l'âme. Cette conscience, elle est présente chez chacun d'entre nous à l'état naturel. Tout naturellement, nous avons une conscience et nous pouvons, par l'intermédiaire de cette conscience, nous connecter à notre âme. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis des milliers d'années chez beaucoup, beaucoup de peuples sur la Terre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on trouve à l'état naturel. Sauf qu'il n'y a pas que ça à l'état naturel. Il y a le mental, les émotions, les croyances, etc., etc. Et tout ça, c'est normal aussi que ce soit là, parce que ça fait partie de nous. Et tous ces éléments, ce sont comme les musiciens d'un orchestre. Chacun a son instrument, chaque instrument a un rôle, et chacun doit en jouer de la manière juste en suivant sa partition. Il est important que chacun joue sa partition en même temps que les autres pour qu'il y ait une harmonie du son produit par l'orchestre. Et donc c'est important que la conscience, le mental, les croyances, les peurs, les émotions, etc., etc., jouent leur rôle en suivant la partition d'ensemble. Si chacun joue son morceau dans son coin, ça va être cacophonique. Et c'est bien souvent ce qui se passe. En général, on a l'espèce de grosse caisse du mental qui joue à fond, là, qui couvre tout le reste. On n'entend rien d'autre. Ou alors on a les émotions qui jouent du trombone à fond la caisse. Et pareil, on n'entend rien d'autre. Ou une espèce de petit vacarme derrière, on comprend rien. Et derrière tout ça, la petite flûte de la conscience, on n'arrive pas à l'entendre. Dans un orchestre, si vous voulez entendre un instrument un peu délicat, au volume pas très élevé, il faut que les autres se taisent à un moment donné. Peut-être un petit soutien de temps en temps, mais il faut un peu de silence pour pouvoir entendre les autres. La conscience, c'est pareil. Il faut que le mental, que les émotions, il faut que tout ça fasse un peu de silence pour qu'on puisse l'entendre. Et ce silence, On va aller le chercher par des techniques qui permettent de se reconnecter, soit seul, lorsqu'on a déjà des pratiques qui nous permettent de le faire, alors notamment des pratiques de méditation. J'ai mis un S à la fin de méditation parce qu'il peut y avoir plein de formes de méditation différentes. Il n'y a pas que Lotus et j'attends que ça vienne. Il y a plein de méditations. Moi, je fais de la peinture. Pour moi, c'est de la méditation. Du sport, c'est de la méditation. Des formes d'art. Bon, tout ce qui vous parle, ce avec quoi vous êtes bien, ça va être peut-être votre forme de méditation qui va vous permettre de vous connecter à votre âme. Et puis, bah parfois, on a besoin d'aide. Et c'est pas honteux et c'est pas un signe. C'est pas parce qu'on a besoin d'aide qu'on est moins développé. Hein. Moi-même, parfois, j'ai besoin de me faire aider. Et tout le monde a besoin de se faire aider. Donc, ça peut être par des techniques telles que l'hypnose et le channeling. Je vais vous en parler. Mais l'objectif, quand même, l'idéal, on va dire, c'est d'être autonome, d'être capable autant que possible. Au moins dans les cas peut-être les moins lourds, les moins compliqués, d'être capable de se débrouiller seul. D'abord parce que ça évite d'avoir à chercher un thérapeute et de courir à l'autre bout de Paris et de dépenser de l'argent et du temps, parce que ce n'est pas toujours facile. Et puis, ça permet de le faire en permanence et même ça permet de rendre cette connexion automatique. Et dans ce cas-là, dès qu'il nous arrive une petite tuile, tout de suite vous pouvez vous connecter et demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça. Donc ça c'est quand même hyper pratique. Alors je vais vous dire quelques mots là des techniques. J'ai cité l'hypnose et le channeling. Donc ce sont des pratiques thérapeutiques que j'utilise dans mon activité. Trois techniques différentes: l'hypnose maïotique, l'hypnose spirituelle et le channeling énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'hypnose maïotique. Alors déjà, l'hypnose, en deux, trois mots, parce que vous savez peut-être à quoi ça correspond. Déjà, rien à voir avec l'hypnose de spectacle, hein, je précise. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié qui est naturel, que l'on pratique tous au quotidien. Lorsque on est mal réveillé le matin, lorsque on lit un livre et qu'on arrive au bout d'une ligne et on se souvient plus ce qu'on a lu avant et on est obligé de reprendre la ligne au début. Voilà, là, on a été en état d'hypnose pendant cette ligne. Lorsqu'on conduit, que ça devient machinal et qu'à un moment, on se dit « mais je suis là, j'ai fait 10 km depuis tout à l'heure et les 10 km, je les ai pas vus ». Et des fois, on se fait un peu peur comme ça. On se dit, mais j'étais comment en conduisant là? Est-ce que j'ai pas été en danger? Ben non, on s'est pas mis en danger. C'est juste qu'on était en état d'hypnose. Donc l'hypnose, c'est ça. Sauf qu'ici, dans l'hypnose maïotique, on l'utilise volontairement, de manière orientée, pour aller à la rencontre de la problématique, pour aller à la rencontre du symptôme. Et on va s'adresser à la conscience pour demander à la conscience ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ce symptôme, quel est le message et qu'est-ce que j'ai à en faire pour avancer. Donc ça fonctionne très très bien avec la très grande majorité des personnes. Parfois on me demande est-ce que tout le monde peut faire de l'hypnose. Quasiment tout le monde. 90% des cas, 90% des personnes à peu près, ça fonctionne très bien en hypnose. Il y a parfois des personnes qui sont un petit peu résistantes, mais ça reste minoritaire. C'est utilisé notamment, par exemple, dans le cadre de traitement des addictions. Donc, je fais beaucoup d'arrêt du tabac en hypnose, mais c'est valable aussi pour d'autres types d'addictions, comme celles que j'ai citées tout à l'heure. L'hypnose spirituelle, c'est un petit peu la même chose, mais en même temps c'est différent. C'est issu de l'hypnose maïotique, mais c'est plus profond. Donc c'est une forme de transe plus profonde, avec des séances plus longues. Là, ce sont des séances qui durent 3 heures en hypnose spirituelle, qui permettent d'aller à la rencontre de nos vies antérieures et ou de l'espace entre deux vies, donc de ce qui se passe entre deux incarnations, pour aller interroger les messages que l'on a à recevoir depuis nos vies antérieures. Typiquement, dans une séance d'hypnose spirituelle, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va recontacter des expériences de vie antérieure qui sont peut-être un petit peu toutes sur le même principe, ou alors qui permettent de visiter tel type d'émotion, tel sujet que l'âme a besoin de travailler de manière plus active en ce moment. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est une dimension différente qui permet d'accéder à ces mémoires que l'on a en nous, mais auxquelles on n'a pas facilement accès dans un état de conscience quotidien. Et enfin, le channeling énergétique, ça c'est une méthode différente que j'ai mise au point, dans laquelle ça n'est plus le sujet qui est en état de conscience modifié comme en hypnose, mais c'est le thérapeute. Donc là concrètement, c'est moi qui me mets en état de conscience modifié et dans une séance de channeling énergétique, je me branche sur vos énergies, donc sur votre structure énergétique et donc indirectement sur votre âme, et je questionne vos énergies et votre âme sur ce qui est à l'origine de votre problématique, de la perte d'emploi, de la maladie, etc., etc. Et là, je canalise de l'information. Donc, c'est là que je reçois les infos sur les vies antérieures, sur le transgénérationnel, le message qu'il y a derrière. Et je vous amène, par la parole et par la pratique de ce channeling, à vous connecter à cette cause qui se manifeste, pour vous permettre de dérouler le fameux processus d'auto-guérison. Et pour vous aider à dérouler le processus d'auto-guérison, bah pareil, je demande à vos énergies de quoi vous avez besoin pour pouvoir vous libérer des mémoires de vie antérieure où vous aviez confié votre pouvoir à d'autres personnes, par exemple. Voilà. Donc, je vais très très vite sur le descriptif. Si jamais vous êtes présent encore sur le salon lundi et que le sujet vous intéresse, je fais une autre conférence spécifiquement sur le sujet channeling énergétique où là je rentrerai beaucoup plus dans le détail. Et si vous n'êtes pas là lundi, bah vous pourrez trouver plein d'infos sur mon site internet et puis me recontacter. Je vous laisse bien sûr mes coordonnées. Donc ça, ce sont les outils que j'utilise en séance de thérapie individuelle. Je propose aussi des séances de thérapie de groupe qui, elles, se passent en channeling énergétique. Là, comment ça se passe? Je regroupe 4 personnes qui veulent travailler le même sujet. Donc ça peut être par exemple la relation de couple, ça peut être les blessures d'abandon, ça peut être, vous voyez, des grands sujets un peu généraux comme ça. Lorsqu'il y a 4 personnes qui ont envie de faire un atelier et qui ont le même sujet, qui sentent qu'elles ont le même sujet à travailler, on se regroupe sur une journée et sur la journée, je vais faire 4 séances de channeling énergétique qui s'adressent aux 4 personnes en même temps à chaque fois. Donc chacun reçoit 4 soins. Ça permet ça de contacter des mémoires qui sont communes aux 4 personnes. Et comme les groupes ne se forment pas par hasard, y a toujours des points communs que l'on peut libérer. Il y a une espèce d'effet amplificateur qui se produit. Et en plus, le fait de travailler de manière intensive sur une journée, de faire 4 soins sur la même thématique, ça permet d'avoir des avancées assez impressionnantes, quoi. Et puis, dernier aspect, je propose des stages, des formations pour les personnes qui souhaitent se former aux techniques que j'utilise. Moi, j'anime plusieurs stages, mais notamment un stage sur le channeling énergétique. C'est un stage de 6 jours. C'est pas 6 jours d'affilée, c'est 2 fois 3 jours, à 2 ou 3 semaines d'écart, qui permet de se familiariser avec la technique et qui permet de pratiquer ce channeling énergétique sur soi, sur ses proches ou dans un cadre professionnel si vous êtes vous-même thérapeute ou si vous souhaitez le devenir. Avec les 6 jours de formation, ça permet déjà d'avoir un bon niveau de pratique. Il y a d'autres stages thématiques qui sont proposées par la suite, mais de toute façon, le point d'entrée, déjà, c'est le stage de 6 jours qui, lui, est indispensable pour pouvoir faire la suite. Voilà. Et puis, le centre Les Chemins de l'Âme vous propose également une formation à l'hypnose, enfin des formations à l'hypnose, hypnose maïotique et hypnose spirituelle, qui, elles, ne sont pas animées par moi, elles sont animées par mon épouse, qui est un peu la grande spécialiste de l'hypnose. Donc voilà ce que vous pouvez trouver au centre Les Chemins de l'Âme. Et je vais vous passer la parole pour répondre à quelques questions. Il nous reste 10 minutes, donc on va essayer de prendre quelques questions. Avant de vous passer la parole, simplement, donc vous avez ici mes coordonnées, il y a mes cartes de visite qui sont disponibles si vous souhaitez en prendre. J'ai aussi ici un descriptif du stage de channeling énergétique si des personnes sont intéressées. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site leschemindelame.com ou le site channeling énergétique qui est vraiment dédié au channeling. Voilà. Je vous passe la parole pour répondre à vos questions si vous en avez.
Bon. Lundi, votre conférence, elle est à quelle heure ?
Alors lundi, la conférence, c'est à 18h comme aujourd'hui et c'est dans cette salle. Y a-t-il d'autres questions ? Oui.
Après votre choc, le choc dont vous avez parlé tout à l'heure, combien de temps vous avez mis à vous reconstruire ?
Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, après le choc que j'ai évoqué tout à l'heure, combien de temps j'ai mis à me reconstruire ? J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, j'en sais rien. Ça dépend où on considère qu'on est reconstruit. Je ne sais même pas si je suis reconstruit complètement, en fait. Enfin, au-delà de la boutade, l'aspect vraiment très très difficile de la dépression, tout ça, je dirais que ça m'a pris une année à peu près. Et tout le reste, après, c'est de l'évolution. C'est du plus. Sauf que, voilà, quand on a 35 ans et que toutes les certitudes s'effondrent et qu'on cherche qui on est et qu'on cherche sa voie. Voilà, on a l'impression d'être un petit garçon ou une petite fille et d'être un peu désemparé, d'être un peu perdu dans un monde d'adultes. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Y a des moments où on se dit comment je vais faire pour m'en sortir. Enfin bon, voilà, ça peut faire des montagnes russes, mais voilà, la période difficile, ça a été un an et puis après ça a été de l'évolution. Oui, madame.
Quelle formation avez-vous suivi pour devenir thérapeute ?
Alors, quelle formation j'ai suivi pour devenir thérapeute ? Différentes formations qui sont détaillées sur mon site, vous pourrez regarder ça. Dans un premier temps, je me suis intéressé au monde de l'énergétique. Ça a été ma porte d'entrée. J'ai découvert qu'on avait accès à différentes dimensions de soi par le ressenti énergétique, qu'on pouvait faire des soins énergétiques. Et ensuite, à l'occasion d'un stage, et dans un moment où j'étais avec mon épouse qui a été dans un moment de grande difficulté, qui m'a demandé de lui faire un stage, qui m'a demandé de lui faire un soin en demandant ce qui était à l'origine des douleurs physiques qu'elle ressentait. Alors que dans la pratique, dans ce qu'on apprenait dans ce stage, on contactait pas du tout les origines, quoi. On faisait un soin, mais qui restait entre guillemets symptomatique au niveau énergétique, mais symptomatique. Et comme il y avait une situation d'urgence, je l'ai fait. Moi, logiquement, avec mon esprit cartésien et ma formation d'ingénieur, j'aurais dû sortir toutes les résistances en disant mais je sais pas faire, comment on fait, la grosse caisse du mental. Mais là, non, elle est restée silencieuse parce qu'il y avait une situation d'urgence et c'est là que j'ai canalisé des choses. Et donc à partir de là, je me suis intéressé à tout ce qui est channeling. Donc je me suis intéressé au monde du channeling, je me suis intéressé au chamanisme, j'ai fait des formations en chamanisme, j'ai fait également des formations en harmonisation énergétique et bien sûr des formations à l'hypnose, que j'ai, l'hypnose maïotique et l'hypnose spirituelle. Donc vous avez toutes les coordonnées des personnes, des principales personnes avec qui j'ai travaillé, parce qu'il y en a d'autres sur mon site avec les références, les sites internet, vous pourrez trouver tout ça. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me recontacter à ce sujet. Alors non, je n'ai pas de stand sur le salon. Merci de la question parce que j'ai oublié de le préciser. Si vous avez d'autres questions, on peut se voir 5 minutes à la sortie de la salle. Vous pourrez me retrouver lundi soir puisque je reviens. Et vous pourrez également, si vous allez sur le salon Parapsy à partir de la semaine prochaine, à partir de mercredi prochain, là j'aurai un stand, c'est le stand B12, donc vous aurez l'occasion de passer me voir. Et puis sinon n'hésitez pas à me passer un coup de fil ou à m'envoyer un mail si vous voulez, si vous avez d'autres questions qu'on n'aurait pas le temps de traiter ici ce soir. Monsieur.